les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Alors aujourd'hui, avec les Ovas de la presse, nous sommes à Lugan, dans l'Aveyron, pour les assises du syndicat de la presse Pas Pareil. Et nous sommes là, dans la salle de concert, avec Raph. Salut Raph.
Salut.
Donc toi, tu es là pour le média Transrural Initiative. Est-ce que tu peux déjà rapidement nous présenter un petit peu le média ?
Ouais, ben Transrural Initiative, c'est un magazine qui aujourd'hui est trimestriel, qui est porté par une asso de différents... différentes structures sur les questions agricoles et rurales. C'est un média qui existe déjà depuis longtemps, mais qui a un peu évolué dans sa forme. Et l'idée, en fait, c'est de rendre compte des différentes initiatives, questions, enjeux qui se posent en milieu rural à travers une revue qui donne à la fois un dossier thématique, des pages d'initiatives, des réflexions aussi sur les travaux de ses membres. Voilà, avec un comité de rédaction ouvert qui se réunit deux fois pour sortir chaque numéro.
Et c'est un collectif, du coup, c'est un regroupement de structures. Tu peux citer quelques-unes de ces structures ?
Ouais, parmi les membres, on trouve le réseau CIVAM, Terre de Liens sur le foncier agricole. Il y a le réseau des tiers-lieuses, Reliés, le MRJC. Il y a 8 ou 9 membres, j'ai une petite anti-sèche, là je vais m'appuyer dessus. Le réseau des espaces tests agricoles, le réseau des CREFAD ou encore réseau Impact. Donc globalement, que des assos de développement agricole et rural, plutôt un esprit d'éducation populaire aussi.
Et comment vous travaillez des comparutions trimestrielles ? C'est vous faites des appels en fonction de dossiers que vous voulez construire ? Ou est-ce que c'est un appel général et puis les différents membres envoient des propositions d'articles ?
En fait, souvent on lance un premier appel où il y a des sujets qui arrivent un peu spontanément, on recueille différentes idées. Et après, on prend un petit peu plus de temps pour choisir le dossier thématique qui est au cœur de chaque numéro. Et souvent, ça répond à des préoccupations des membres. Donc, on va s'appuyer sur ce que eux font. Donc ça peut être un reportage, un événement qui a été organisé. Des fois, c'est en amont du dossier et des fois, c'est aussi un événement qui va servir à diffuser ensuite. Mais on tient compte, en gros, des préoccupations des membres et de ce qui nous arrive.
Le siège social, il est à Paris. Toi, tu habites à Saint-Affrique, hein, donc c'est le nord de l'Aveyron, c'est ça ?
Sud d'Aveyron.
Le sud de l'Aveyron, ouais. Pardon. Quoi. Et toi, tu travailles sur quoi plus précisément ?
Moi, il y a pas mal de choses autour des questions d'engagement des associations en rural. Pas mal de trucs aussi autour de la mobilité, les questions de déplacement. J'ai beaucoup été sur les questions d'habitat et d'habiter à la campagne. Problématiques de réhabilitation, logement collectif, les différentes formes. Ça tourne un peu. Moi, je fais pas mal le lien avec les membres, à essayer aussi de voir ce qu'on peut faire avec d'autres médias et organiser des temps d'échange et d'ateliers aussi.
Parce que vous êtes combien de salariés au sein de Transrural Initiative, pardon ?
On va bientôt être deux, parce que pour l'instant, j'étais bénévole. Et donc, il y a un permanent qui est responsable de la rédaction. Et puis, il y a un dessinateur aussi, à temps très partiel. Et c'est vrai que ça s'appuie beaucoup aussi sur des contributions des membres, sur des travaux des uns et des autres. Donc c'est plutôt d'organiser un peu de l'échange entre tout ce monde-là, pour que ça puisse refléter aussi la diversité de ce qui se fait en milieu rural. C'est un peu la façon de faire, quoi.
Et donc Transrural Initiative est membre du syndicat de la presse Pas Pareil aussi. Ça se traduit comment pour vous cet engagement auprès du SPPP ?
Alors, il y a eu une implication un petit peu fluctuante, parce qu'il y avait l'ancien responsable de la rédaction qui avait participé, je pense, à quelques échanges. Nous, le fait, en tout cas, de pouvoir, avec d'autres, afficher certaines prises de position sur l'importance de la pluralité des points de vue, de l'indépendance vis-à-vis des grands groupes, c'est bien qu'il y ait un espace en tout cas pour défendre ça ensemble. Et puis après, il y a le côté aussi pratique de pouvoir aider à diffuser ce qu'on fait. Donc le fait d'avoir le site internet, le relais, la possibilité de s'abonner aussi à Transrural par là, pour nous c'est important et c'est bien de le faire à plusieurs, quoi.
Tu parles de diffusion, Transrural Initiative, du coup il est diffusé comment ? C'est sur abonnement, dans les kiosques ?
Principalement sur abonnement, donc c'est en s'appuyant sur les différents réseaux membres. Après, il y a quelques, en fonction des dossiers qu'on fait, on propose aussi des fois des achats groupés de numéros, ou c'est possible aussi de commander un numéro au cas par cas. Et puis après, ça arrive que, en fait, on accompagne des travaux des membres. Donc là, ouais, des fois, il y a des commandes supplémentaires, quoi. Mais on n'est pas en kiosque, en tout cas, pour le moment.
Là, ça fait un moment que ça existe. Vous avez dépassé le 500e numéro, il me semble.
Ouais, c'est ça. Je crois que ça va faire 35 ans. Alors, ça a beaucoup évolué dans sa forme. Au début, c'était un bulletin qui sortait tous les 15 jours. Là, on est plutôt sur une revue assez un peu plus consistante et qui sort du coup tous les 3 mois. Donc, ouais, ça a aussi évolué au gré des implications et des préoccupations des gens qui viennent. On a eu besoin aussi un peu de renfort. On a fait un appel à soutien à l'automne dernier, mais qui a plutôt bien fonctionné. Et puis à côté de la revue, l'association propose aussi des ateliers de formation à l'écriture, accompagnement, éducation aux médias. Et puis ouais, quelques petites prestations ou partenariats pour faire des travaux de compte rendu ou de synthèse. Donc ça s'alimente et ça se complète, on va dire.
Est-ce que vous alimentez également un site internet?
On a un site, mais qui a plutôt une fonction un peu de présentation ou de vitrine, et où on met quelques articles, voilà, on en met deux par numéro, et on essaie aussi de mettre à disposition les archives, les anciens numéros, et de regrouper par deux, par thématique. Donc ça, c'est en accès libre.
Tu nous as dit que tu étais bénévole depuis déjà pas mal de temps, c'est-à-dire tu es au sein de Transcurel Initiative depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu participes à la rédaction?
Alors, en fait, pour préciser un peu, je pense que je suis impliqué depuis 8 ou 9 ans, et au départ, c'était à travers une des associations membres, l'association Relier. Voilà, dont j'étais salarié. Et donc après, j'écrivais de temps en temps sur les sujets qu'on travaillait. Et après, j'ai aussi été un petit peu dans le CA de l'association porteuse, donc l'ADIR. Et là, ça fait maintenant vraiment plus quelques mois que je suis plus impliqué dans l'animation de la vie associative et la contribution à la revue plus régulière, quoi.
Donc toi, tu disais que ça faisait déjà 8 ou 9 ans en gros que tu participais à la revue. Est-ce que tu as vu une évolution non pas de la revue mais de la ruralité?
Alors, y a de plus en plus, je pense, un peu d'intrication entre enfin le rural et l'urbain. Les frontières sont un peu poreuses avec des gens qui vont et viennent. Et puis, y a toujours eu les problématiques un petit peu du rural utilisé un peu comme source d'énergie, d'espace. Voilà, donc un peu comme un territoire utile sans forcément reconnaître tout ce qui s'y passe et les conditions de vie des gens aussi dedans. Après, je sais pas, il y a des choses, c'est sur le temps long, quoi, donc j'ai du mal à dire, mais oui, il y a des trucs qui bougent, quoi.
Toi, tu disais que tu avais pas mal écrit sur tout ce qui était l'habitat. Est-ce que ça concerne aussi l'habitat léger, la difficulté d'installer de l'habitat léger dans le monde rural?
Ouais, d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel des fois il y a eu des articles aussi dans Transrural Initiative, mais c'est vrai que il y a, je crois, de plus en plus de gens en fait qui ont recours à ces modes d'habiter-là. On va dire que ce soit par choix ou nécessité, mais à la fois parce que c'est quelque chose qui permet peut-être de s'installer des fois un petit peu plus rapidement, plutôt à un coût modique et qui répond aussi à des enjeux écologiques. Bon, voilà, il y a plein de choses, quoi. Et pour autant, c'est pas quelque chose qui est reconnu facilement, ni au niveau de l'urbanisme, ni même culturellement. C'est pas, des fois, c'est compliqué aussi. Donc, c'est vrai que de participer aussi à faire un petit peu, voir un peu ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui amène les gens à s'installer sous cette forme, on pense que c'est quelque chose qui est important à documenter et d'en rendre compte, quoi.
Transrural Initiative donc s'intéresse au monde rural, pas uniquement à la paysannerie, c'est également le monde culturel, c'est les initiatives, c'est comme tu disais là la manière d'habiter. Existe-t-il d'autres médias qui s'intéressent à la ruralité avec lesquels vous travaillez, des médias peut-être de proximité ou régionaux ou même nationaux?
Alors oui, il y en a. Là, il y a une initiative là qui vient de repartir il n'y a pas très longtemps. Avant, ça s'appelait les champs d'ici, et maintenant c'est rural. Voilà. Donc c'est plutôt l'idée d'avoir des chroniques avec un travail assez fouillé, quoi, de reportages, d'enquêtes, un peu plus situé dans le nord-ouest de la France. Voilà, donc là on commence juste à échanger. Et après, des fois, ça arrive qu'on fasse des échanges de papiers ou des petites présentations, dont des membres du syndicat de la presse, pas pareil, qui travaillent aussi certains sujets autour du rural, hein. Il y a l'âge de fer, silence, et d'autres, hein, plus implantés au niveau local, Lampaillé, pour ne citer qu'eux, hein, il y en a d'autres. Voilà, et du coup.
Ça, du coup, pas c'est le réveil, ça. C'est l'heure, c'est l'alarme, stop, faut partir.
Ça va, il y a encore un peu le temps. oui, voilà. Donc je disais, oui, ça arrive avec aussi. On fait des échanges des fois avec la publication de la Confédération paysanne, Campagne solidaire.
Parce qu'à la différence de la Confédération paysanne et donc de Campagne solidaire, vous n'êtes pas un syndicat.
Non, non, non. C'est vraiment à la base un regroupement d'associations et qui après ouvre ses pages et ses espaces d'échange à toute personne potentiellement intéressée, quoi. On ne met pas forcément de limite. Après, la façon qu'on a de communiquer fait que ça s'appuie beaucoup sur le réseau associatif qui est derrière, quoi.
Et donc le prochain numéro, ce sera quel numéro et il paraîtra quand?
Alors, eh ben, il va sortir tout prochainement, à la fin du mois de juin, là, avec un dossier thématique sur les bals et musiques trad, et ce qu'elle reflète aussi de la société, voilà, qui vient dans les bals, qui les organise, où est-ce qu'on les trouve. Donc, on souhaite aussi le diffuser d'ailleurs, peut-être dans différents festivals ou lieux cet été. Et puis bah, comme à chaque numéro, il y aura aussi des pages initiatives, une petite rubrique sur le syndicat de la presse, pas pareil, des parutions, des pages aussi plutôt d'idées ou d'opinions.
Tu as travaillé sur un article, un dossier, quelle a été ta participation à ce numéro?
Alors moi j'ai fait quelques interviews pour alimenter le dossier sur les balles et musique trad. Avec un lieu pas très loin de l'endroit où je vis aussi, là, à Monargues, près de Sainte-Afrique. Et puis, j'avais aussi suivi deux rencontres, une sur la question de la mobilisation des paysans face au changement climatique, comment ils peuvent s'entraider, prévenir, réagir face à tout ça. Et puis une autre rencontre sur les liens justement entre associations et établissements de développement agricole, plutôt autour des questions de formation. Donc il y a deux... Il y aura deux papiers un peu qui rendent compte un peu de ces événements dans le prochain numéro.
Donc bon, ben pour les auditeurs auditrices qui voudraient s'intéresser à ce numéro, s'abonner, trouver les anciens numéros, donc le site transruralinitiative.org.
Ouais, c'est ça. On retrouve en plus de la présentation, il y a une petite boutique en ligne si on veut soutenir, commander un numéro ou s'abonner. Et puis voilà, ça permet de voir un peu plus ce qu'il y a derrière, donc pas hésiter à nous contacter aussi, à nos coordonnées sur le site. Et après, bienvenue aussi si jamais quelqu'un a envie de proposer un sujet, voire écrire un article, on pourra le tenir au courant du prochain comité de rédaction par exemple.
Et bien l'appel est lancé, merci beaucoup.
Merci.
Les autres voix de la presse, une émission réalisée par mon papa.
Nous sommes toujours aux assises du SPPP, donc à Lugan dans l'Aveyron. Et là maintenant nous sommes avec Malak pour le journal La Brique. Salut Malak.
Salut Jocelyn.
Donc Malak, est-ce que tu peux déjà nous resituer La Brique? Voilà, c'est un média de proximité.
C'est un média qui est basé à Lille, mais on traite de l'actualité de la métropole de Lille, donc Lille, Roubaix, Tourcoing, et quand il y a des sujets qui nécessitent de prendre un peu plus de recul, on peut traiter de toute la région Nord-Pas-de-Calais, et même un peu Hauts-de-France. On existe depuis 2007. Et politiquement, on se situe sur un spectre de gauche radicale. En gros, on n'a pas une ligne. On n'a jamais choisi entre anarchisme et communisme. On a même quelques électoralistes dans l'eau, mais en gros, de gauche radicale.
Donc tu dis que La Brique existe depuis 2007, mm-hmm. C'est bien ça. Là, à Lugan, il y a un des membres fondateurs de La Brique, Simon.
Oui.
Tu le connaissais avant d'arriver ici?
Non, Simon, je ne l'ai jamais rencontré. Parce que le collectif a énormément changé. Moi, j'ai rejoint le collectif il y a 2 ans seulement, à un moment où on a eu toute une vague de renouvellement en même temps. Simon, je crois qu'il y a une des personnes du collectif actuel qui doit le connaître, ou 2-3 personnes qui ont pu le croiser. Mais ça a énormément changé. Et donc, je suis super content de pouvoir pouvoir le rencontrer.
Et surtout qu'on retrouve Simon maintenant aussi aux manettes avec d'autres personnes du journal L'Empaillé en Occitanie. Donc il y a une sorte de continuité dans son engagement.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé chez nous.
Et donc tu disais que Malak, ça faisait 2 ans maintenant que tu avais rejoint la Brique. Depuis 2 ans, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre la Brique ? Est-ce que tu es Lillois déjà d'origine ?
Moi, je suis d'Arras à l'origine. Je suis arrivé à Lille pour mes études il y a 2 ans. Et à ce moment-là, je cherchais un journal où je pouvais m'engager journalistiquement et aussi des collectifs militants dans lesquels m'insérer. La Brique avait l'avantage de réunir les deux. Et ça a été vraiment super fondateur et formateur. Moi, je suis encore assez jeune et je commence à peine le journalisme. Et ça a été vraiment super formateur d'y être. Maintenant, je suis en alternance. Je suis pas à Lille tout le temps, mais j'arrive pas à décrocher. Je continue à écrire dedans.
Tu es en alternance, c'est-à-dire tu es en alternance formation, étudiant en alternance, ou tu es en alternance un peu sur Lille et puis un peu dans une autre ville pour d'autres raisons ?
C'est ça, je suis étudiant en alternance et donc mon école est à Lille et ma formation se passe dans une autre ville.
Mais tu es étudiant en journalisme ?
Je suis étudiant en journalisme.
Et donc c'est un peu tes premières armes que tu fais avec la Brique ?
C'est ça, en fait j'ai rejoint la Brique à l'origine, c'était aussi en amont des concours des écoles de journalisme parce que je cherchais à me faire de l'expérience aussi et puis que j'avais envie de faire ça. Et je connaissais la Brique parce que de mes week-ends sur Lille, quand t'es d'Arras, tu montes à Lille, j'ai été tombé sur un vieux numéro à l'époque quand j'étais plus jeune et donc je connaissais ça, j'ai vu que le collectif recrutait ou cherchait du monde quoi pour continuer à le faire vivre et j'ai rejoint à ce moment-là.
Et tu dis qu'il y a souvent un renouvellement au sein de la Brique, ou du moins là il y a eu un fort renouvellement. C'est dû à quoi ce renouvellement ?
Je pense que c'est la fatigue. En fait, on est tous bénévoles dans le journal. On se verse pas du tout d'argent et donc tous les gens qui sont là le sont sur leur temps libre. Il y a quand même pas mal d'étudiants, il y a aussi des personnes qui font ça à côté de leur travail et donc forcément en termes d'énergie ça en demande beaucoup. Beaucoup de gens qui en plus militent dans d'autres collectifs à côté ont du mal à trouver le temps ou du mal à trouver l'énergie au bout d'un moment. Donc il y a beaucoup de renouvellement par rapport à ça, je pense.
Et donc la Brique, la parution, donc c'est un journal papier, c'est une parution trimestrielle.
Plutôt quadrimestrielle même. On arrive à sortir une fois tous les 4 mois, parfois un peu plus que 4 mois, parfois un peu moins que 4 mois. On essaye de faire pour que le journal, on le sort quand il est fini quoi, et on essaye de se mettre un rythme. Mais comme je dis avant, entre la parution du journal, enfin les gens qui ont leur travail à côté, qui sont bénévoles, et des événements qu'on essaye d'organiser de temps en temps pour maintenir du lien avec nos lecteurs, parfois tu prends 3 semaines pour bien organiser ta diffusion que tu fais tout seul, pour organiser un apéro pour en discuter avec les lecteurs du dernier numéro, et tu te retrouves vite un peu à la bourre pour sortir ton numéro dans les 4 mois quoi.
Le dernier numéro, il est paru quand ? Là, on est fin juin, quasi.
Ouais, le dernier numéro, il est paru juste avant les élections municipales, donc début mars. Et on devrait sortir là. Le bouclage commence le week-end prochain, du prochain numéro. Donc, on est sur début juin. Début juillet, carrément. Ouais. Ouais, si on compte comme ça, c'est pas étonnant qu'on soit en retard.
Et donc sur ce prochain numéro, toi tu as écrit quoi ? Tu t'intéressais à quoi ? C'est quoi le sujet ou les sujets qui t'ont porté ?
Moi j'écris un article sur la dissolution d'un mouvement antifasciste lillois qui s'appelle Front de Rue. En fait, je les avais rencontrés dans un autre cadre quelques semaines plus tôt, et ce mouvement qui est tout jeune, qui vient d'être créé en décembre 2025. Le gouvernement a demandé sa dissolution là il y a 2 semaines, en même temps que la dissolution d'un groupe d'identitaires à Albi, Patrias Albiches je crois, ou quelque chose comme ça, je les ai interrogés sur ce sujet là et sur en fait c'est aussi beaucoup l'impact des... Ils ont une grosse communication sur les réseaux sociaux. Ils ont fait ce choix-là. C'est un peu une nouvelle génération d'antifascistes. Ils faisaient le choix d'être assez de publier pas mal leurs actions, et donc c'est là-dessus que le gouvernement s'est appuyé pour demander leur dissolution.
Sur des posts, des messages sur les réseaux sociaux, pas pour des actions
sur des posts sur les réseaux sociaux où ils montraient des entraînements de boxe ou ce genre de choses.
Ils montraient des entraînements de boxe du mouvement Antifa ou des fachos.
De eux qui s'entraînaient, en montrant qu'ils se préparaient, quoi. C'est de l'autodéfense populaire, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est d'autant plus inquiétant le surgissement de cette demande de dissolution que il y a eu toute une série d'agressions fascistes à Lille en début d'année, en janvier-février, et que c'était aussi dans ce contexte-là, demander la dissolution, c'est presque à contre-courant de ce que les gens à Lille, ce dont les gens à Lille auraient besoin, ou en tout cas ce qui inquiète une partie des Lillois. Ouais.
Est-ce qu'il y a une montée de cette extrême droite, violente à Lille également?
Ouais, tout à fait. Ouais. On en a parlé dans le dernier numéro. Et depuis quelques années à Lille, la mouvance d'extrême droite s'était un peu apaisée. On avait eu un gros pic, je pense c'était vers 2020, je suis pas sûr de ça, mais autour d'un bar qui s'appelait La Citadelle et qui réunissait des néo-nazis, ça se disait bonjour à coups de Heil Hitler ou des choses comme ça, et ça prévoyait des ratonnades, etc. On a eu une accalmie après la fermeture de ce bar-là, et en janvier, ça a été d'abord une agression physique dans au Centre Culturel Libertaire, qui est un lieu qui accueille des conférences, des concerts, mais qui est très lié à la mouvance Anar. Et il y a des individus qui sont rentrés et qui ont cassé la gueule des personnes qui étaient là, qui ont renversé les tables du repas, etc. Enfin, et surtout qui ont blessé les gens. Et derrière, dans les semaines qui ont suivi, tu as eu le centre LGBT dont la vitrine a été brisée plusieurs fois avec des poids marqués d'une croix celtique. Tu as eu des bars qui sont associés à la gauche et qui accueillaient des ateliers de mouvements de gauche qui ont été tagués de croix celtique la nuit, ce genre de choses. Donc ça s'est beaucoup tendu à ce moment-là. Il y a eu un beau sursaut à Lille, il faut insister là-dessus aussi, un beau sursaut antifasciste dans les quartiers où ça s'est produit.
Parce que pour moi, dans mon imaginaire, Lille, t'es une ville de gauche, même si t'es de la gauche PS. Mmh. Mais du coup, il y a encore quand même cette énergie, ce positionnement plutôt à gauche. Ou est-ce que justement, vous sentez qu'il y a en ce moment une montée de l'extrême droite également sur Lille?
On sent une montée de l'extrême droite, et je pense pas que les deux soient même opposés. On a une ville qui est quand même marquée à gauche. Et qui est, je pense, majoritairement à gauche, un milieu militant qui est très dynamique, mais ça n'empêche pas que il suffit d'une dizaine de fascistes, enfin un fasciste, c'est déjà un fasciste de trop, quoi, et il peut à lui tout seul aller péter la vitrine. C'est aussi pour ça que nous on répondait collectivement en montrant qu'on était plus nombreux. Mais tu vois, typiquement, ces agressions-là qui ont eu lieu, elles ont eu lieu dans des quartiers qui sont populaires et dans les quartiers qui sont les plus marqués à gauche de la ville, qui sont les quartiers d'Oisem et Moulins.
Et donc ça, c'est un des articles que toi tu as préparé pour le prochain numéro. Ce sera quel numéro d'ailleurs? Vous en êtes à combien?
C'est le numéro, que je dise pas de conneries, 75. Numéro 75.
Ouais. Et tu as écrit d'autres articles? Tu as travaillé sur d'autres articles?
Non, dans celui-là, j'ai pas eu le temps de travailler sur d'autres articles parce que j'avais pas mal de boulot à côté qui m'ont pas permis de travailler sur d'autres choses. Mais dans ce qui se prépare, on a un super article qui va parler d'un une enquête sur un centre de cinéma à Lille, en fait, qui est un cinéma indépendant à l'origine, mais qui fait pas mal de, comment dire ça, militant washing. En fait, se présente quand même comme un truc alternatif, mais les tarifs ont augmenté et beaucoup, beaucoup. Et au-delà de ça, c'est une asso qui truste toutes les subventions culturelles de la ville en organisant plein d'autres choses et qui fait travailler des intermittents avec des contrats de 35 heures, en fait, en leur disant qu'ils donneront leurs heures d'intermittence s'ils s'engagent à venir sur des 35 heures. On a aussi plusieurs articles sur l'installation de la nouvelle mairie à Fâche-Thumesnil en banlieue de Lille. C'était jusqu'ici une des plus grandes villes tenues par c'était la plus grande ville jusqu'en 2026, la plus grande ville tenue par LFI, qui est passée à la droite aux dernières élections et qui le maire a notamment interdit l'organisation d'une pride et ce genre de choses. Donc on a des articles là-dessus aussi. Et on reparle encore du canal Seine-Nord-Europe, qui est le gros projet d'aménagement absurde qu'on a dans la région.
Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de projets de canaux. Pendant un temps, moi je suis en Alsace, donc c'était le canal Rhin-Rhône, hein, où il y a eu des grosses luttes dans les années 70 et puis encore dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, pour l'instant, en Alsace, le projet a été abandonné. Mais on entend souvent parler de ressortir le projet des tiroirs. Et là, en effet, il y a ce gros projet donc, qui vous concerne plus, vous, au nord. Tu peux nous le resituer rapidement?
Ouais, tout à fait. C'est un canal qui est donc un projet de canal qui relierait l'Oise au canal du nord de l'Europe, donc qui rejoindrait dans le sud du département du Nord, les canaux qu'on a, nous, qui existent déjà. Et c'est un canal qui est gigantesque. En fait, il y a des... Pour te donner un ordre d'idée, il y a des bassins de rétention qui doivent servir à alimenter le canal l'été, quand il y a de l'évaporation, etc. Et le principal bassin de rétention qui doit servir à alimenter représente quelque chose comme 16 fois Sainte-Soline en termes de volume. Je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est entre 12 et 16 fois Sainte-Soline. Donc c'est quelque chose qui est gigantesque et qui se présente sous un vernis vert, comme souvent. Là, on nous promet de désengager l'autoroute A1 qui relie Lille et Paris en déportant une partie du trafic de marchandises sur le canal. Mais dans la réalité, il y avait énormément d'autres manières de le faire. D'ailleurs, il existe déjà un canal en fait qui fait ce trajet-là, mais qui est plus petit. Et au lieu de même ne serait-ce que l'agrandir, ils construisent quelque chose de complètement différent. Et évidemment, avec tout ce que ce genre de méga chantier implique d'expropriation et de destruction de la biodiversité sur place. Donc, il y a une résistance qui se commence à s'organiser pas mal dans la région, mais attends, si je dis pas de bêtises, c'est ce week-end-là qu'il y a un week-end de mobilisation contre le méga-canal. Ouais, ça doit être ce week-end.
Voilà. Et tu disais au sein de la Brique que vous êtes que des bénévoles. Mm-hmm. C'est quand même un groupe qui est un peu fixe, qui est présent. Combien vous êtes à travailler, par exemple, sur ce prochain numéro qui sort début juillet?
C'est difficile à chiffrer parce que tu vas avoir des gens qui sont peu présents mais qui écrivent, des gens qui sont très présents aux réunions mais qui vont plus s'investir sur plein d'autres aspects, gérer les abonnés, gérer l'impression, etc. Au total, de gens qui sont actifs dans la Brique, je pense qu'on est une vingtaine, avec un noyau dur de 7-8 personnes qui est présent de manière plus régulière.
Et donc votre diffusion, vous êtes diffusé dans les kiosques à Lille ou c'est de la vente à la criée?
On est diffusé dans les kiosques, on est distribué par Nordpress. Et on a aussi tout un réseau de diffusion militant qu'on a mis en place, enfin, ça fait des années qu'on l'a, qu'on appelle nos dealers de briques, et qui sont en fait beaucoup de cafés associatifs, dans une démarche militante. Il y a des librairies... Ce genre d'endroit où on est diffusé, et on fait aussi des criées quand le numéro sort, souvent on fait quelques criées. Ouais.
Alors là, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui flanche, mais est-ce que c'est pas à Lille où il y avait eu une construction en palette d'un doigt d'honneur?
Ça, je ne sais pas.
C'est pas.
Je te dis.
Je ne sais plus quoi. Bon, tant pis, on zappe la question. Et donc pour les auditeurs. Pardon, j'en commence. Pour les auditeurs, auditrices qui voudraient se procurer la brique, le mieux c'est d'aller sur le site internet. C'est quoi l'adresse et la brique?
Le mieux c'est sans doute de trouver notre Hello Asso. C'est possible de s'abonner et donc d'avoir la livraison directement à domicile. On a un site internet qui n'est pas toujours hyper à jour, mais vous retrouvez quand même aussi, enfin c'est aussi intéressant du point de vue des archives si vous voulez. Si vous voulez voir les anciens articles, la plupart du temps, comme on privilégie le papier, les articles du dernier numéro sont pas en ligne, ils sont publiés à la sortie du numéro suivant. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est labrique.net.
C'était les autres voix de la presse avec Transrural Initiative et Labrique. À la semaine prochaine, d'ici là. On va s'interroger ton stylo.